Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi, l'émission qui vous veut du bien. Dans le parcours incessant vers le mieux-être, certains d'entre nous font de plus en plus appel à des médiums, pour nous-mêmes, pour notre habitat, pour rassurer ou pour guérir. Aujourd'hui, pour m'accompagner tout au long de cette émission, j'ai la chance de recevoir Mathieu Pittet, médium énergéticien.
Bonjour, bonjour à tous, à toutes.
Alors bonjour Mathieu, déjà peux-tu te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ?
Donc moi je suis donc Mathieu Pittet, j'ai 40 ans, médium de naissance en fait, je fais des soins énergétiques aussi en plus. Finalement, c'est un domaine vaste où tout se recoupe, tout se regroupe, donc voilà, effectivement ça touche pas mal de domaines, ouais.
Donc tu es médium, tu fais des soins énergétiques, tu es passeur d'âme, travaille sur les blocages karmiques, les harmonisations des lieux.
Oui, donc effectivement, soins énergétiques, c'est plus tout ce qui concerne la personne, c'est-à-dire que effectivement autour d'une personne, vous avez grosso modo une aura, et parfois l'aura autour du corps physique pose des soucis et génère des soucis sur le corps physique du coup derrière. Donc il faut aller un petit peu soigner l'aura pour refaire circuler les énergies, pour soigner des bobos, des problèmes. Et puis il y a aussi le côté, tout ce qui est nettoyage énergétique de l'habitation, qui fait un petit peu partie des soins énergétiques. Donc tout ce qui s'est passé dans les habitations imprègne en fait les murs, les objets. Et donc ça passe aussi par des soins énergétiques un petit peu pour libérer tout ça. Et puis le côté médiumnique pur qui, de temps en temps, permet aussi d'apporter aux soins énergétiques un plus. Voilà.
Alors moi j'ai une question pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément la définition. Qu'est-ce que c'est qu'être médium en fait ?
Finalement, un médium, c'est simplement une personne qui a la capacité innée ou travaillée un petit peu plus tard, finalement, d'être la jonction entre deux mondes. Simplement, on a autour de nous le monde physique, le monde que tout le monde perçoit, qui est simplement, finalement, une image que notre cerveau interprète. Hein, c'est déjà, finalement... deux images 2D que le cerveau transforme déjà en une image 3D. Et puis derrière, il y a tout ce qui est imperceptible, tout ce qui est sur une vibration différente, finalement au même titre que les ondes électromagnétiques, tout ce qui est les ondes gravitationnelles, tout ça. Finalement, c'est juste une personne qui arrive à percevoir une vibration que d'autres ne perçoivent pas. Voilà. Mais finalement, de manière innée et de plus en plus, l'homme normalement est capable de percevoir tout ça. Les jeunes enfants d'aujourd'hui, de par l'élévation un petit peu énergétique du moment, sont beaucoup plus sensibles et perçoivent naturellement les esprits de la nature, les entités dans les maisons. Donc tout ça se fait de plus en plus aisément, et puis on en parle aussi de plus en plus, donc ça va dans le bon sens.
Tu as dit tout à l'heure que finalement pour toi c'était de naissance.
Oui, alors moi, mon parcours rapidement, oui. Finalement, moi je suis originaire du Nord, enfin du Nord, par rapport à ici, oui, Seine-et-Marne Nord, sur les anciens champs de bataille de la Première Guerre mondiale, j'ai grandi. Donc dans des très vieilles maisons, et étant petit, le parcours classique, peur du noir, mais en fin de compte, finalement, peur du noir parce qu'il y avait énormément de personnes et que je voyais les visages, je percevais en fermant les yeux ce que d'autres ne percevaient pas, dont mes parents. Et du coup, ça créait une fameuse peur du noir. Il y a souvent la peur du noir chez les jeunes enfants, est souvent liée quand même à des perceptions, des perceptions comme ça... de l'au-delà, des entités ou de ce qui s'est passé dans les maisons. Et donc, effectivement, maison chargée. Donc ça m'a permis un petit peu d'apprivoiser les ressentis, bon gré, mal gré. Et puis après, l'adolescence, on met un petit peu ça de côté. Et puis moi, c'est revenu vraiment vers la vingtaine où tout le parcours dans la vie, à un moment donné, vous dirige vers ça, en fait, pour redécouvrir un petit peu, alors avec des expériences un petit peu, paranormal, puis on rencontre quelqu'un qui vous met sur la route, etc. Puis on redécouvre ses ressentis, on fait des rêves, on découvre un petit peu son parcours, on a des réminiscences d'ancienne vie, puis à un moment donné, voilà, la porte s'ouvre et voilà. Pour moi, ça a été le cas. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a plusieurs, finalement, il n'y a pas deux médiums qui aient les mêmes ressentis. Certains vont vraiment percevoir, c'est le cas là, des jeunes enfants que moi je peux croiser, comme vous et moi, les défunts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre. Et certains enfants même n'ont même pas, au début ça leur fait drôle parce qu'ils ne se rendent même pas compte de qui est décédé, qui n'est pas décédé. Ça arrive. Et c'est même gênant. Quand on est dans des lieux un petit peu chargés, comme des écoles un peu chargées, ça peut perturber. Donc des fois on m'appelle aussi par rapport à ça. Et il y a aussi des personnes qui vont juste entendre, qui vont juste voir en fermant les yeux, d'autres qui vont pas forcément voir. Des personnes, ça va se passer plus au niveau des sensations, au niveau du corps, donc ils vont savoir qu'il y a une entité qui est restée dans une habitation parce qu'elles vont percevoir au niveau du troisième œil ou des petits picotements, enfin des choses comme ça. Voilà, ça peut il y a tout le panel en fait des ressentis.
Alors, juste pour situer, pour les personnes qui ne seraient peut-être pas à même, ce qu'on appelle le troisième œil, c'est cet espace qu'il y a au niveau du front.
Oui.
Voilà, tu peux détailler.
Finalement, c'est ce que les cultures orientales ont toujours gardé, c'est-à-dire que cette notion de chakra, c'est-à-dire que sur le corps, on en a des centaines, d'ailleurs que les acupuncteurs utilisent au niveau des méridiens, tout ça, les petits centres énergétiques, et on en a grosso modo 7 sur nous, sur une ligne qui va grosso modo du pubis au crâne, voilà. Et donc le troisième œil se situe, oui, à peu près entre les deux yeux, un petit peu au-dessus, voilà. Et du coup, souvent, ce troisième œil, il est associé, et c'est même le cas, à tout ce qui est perception extrasensorielle, donc ça peut être des ressentis là, et puis au niveau aussi même du chakra couronne, tout en haut, au niveau de la tête, il y a souvent des ressentis de ce côté-là, oui.
Donc tu disais que pour toi, ça a été constaté, tu l'as constaté pendant l'enfance, est-ce que sur la base familiale, il y avait déjà un terrain propice à ce genre de constat ?
Alors ma mère est sensible, mais bon, c'était des époques où on en parlait peu, donc du coup elle sait, une fois que moi je me suis relancé là-dedans, finalement elle m'a raconté pas mal de choses, et puis elle a de la perception, c'est-à-dire qu'elle est capable quand même de sentir les gens, de percevoir quand même, parce que dans la médiumité il y a aussi ce côté où lorsque vous voyez une personne, vous êtes capable tout de suite de lire l'âme, entre guillemets, c'est-à-dire que vous voyez tout de suite si elle est lumineuse ou pas, ce qu'elle a pu faire ou pas, des fois des anciennes vies qui ressurgissent, et des fois ça peut être simplement même dans une file d'attente dans un magasin. Moi ça m'est arrivé d'être dans une file d'attente et d'avoir des ressentis sur la personne juste en face de moi, et c'était compliqué.
Comment tu fais dans ces cas-là ?
Eh ben, pas grand-chose, puisque c'est juste du ressenti. Là, c'était un peu un cas extrême. C'était une personne, je pense qu'il était polonais, conducteur polonais, et je pense qu'il n'était pas très sympa avec ses enfants. Voilà, sans aller dans le détail, c'était
D'accord.
un peu ça. Et donc, du coup, j'ai juste une perception sur le moment, et puis après, on paye, et puis voilà. Il y a beaucoup d'informations qui viennent comme ça, et finalement, on n'en fait pas grand-chose.
Est-ce que comme Patricia Daré, par exemple, Patricia Daré, qui est, on va dire, une des médiums qui a le plus été favorable au métier de médium, notamment en le démocratisant, en publiant de nombreux livres, en faisant de nombreuses conférences, qui explique clairement dans ses ouvrages ou dans ses conférences notamment, mais que des fois elle est à table et au restaurant ou chez des amis, qu'elle se retrouve confrontée à une entité qui a besoin de communiquer quelque chose. Est-ce que des cas comme ça te sont déjà arrivés ?
Oui, moi ça m'arrive souvent. Alors d'ailleurs, le premier livre de Patricia Daré, oui, il est très bien, elle explique très bien. Je crois que elle, c'était suite, c'est pour ça que je disais que ça pouvait venir sur le tard, c'était suite, je crois, à sa première grossesse, où à un moment donné, elle n'était pas du tout là-dedans, et puis finalement, dans la nuit, on lui a dit, prends une feuille et écris. Bon, elle ne voulait pas trop, non, et puis finalement, d'un seul coup, elle a cru devenir folle, et puis elle s'est découverte ses facultés qui revenaient. C'était des chemins de vie, c'est-à-dire que quand ça revient comme ça à 50 ans ou 40 ans, je crois qu'elle avait une quarantaine d'années, c'était vraiment écrit dans un chemin de vie, hein, il n'y avait pas de hasard. Mais effectivement, oui, moi, ça arrive souvent au niveau des... lorsque je prends la route en voiture, par exemple, ça arrive de ramasser du monde. C'est-à-dire que l'entité qui reste, qui n'a pas pu passer directement parce qu'elle a loupé le coche, parce qu'elle n'avait pas envie, parce qu'elle était hébétée sur le moment ou des choses à faire encore. Elle a besoin en fait d'un tremplin pour passer. Et donc au niveau de l'âme des passeurs d'âme, ça fait comme un phare dans la nuit. Ils savent, les entités savent qu'on est capable de les aider. Et d'ailleurs, c'est ça qui pose aussi un petit peu problème chez les jeunes enfants, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes enfants qui sont capables de faire passer les entités, mais elles ne savent pas encore comment faire. Et du coup, elles reviennent à la maison avec des entités qu'elles ont pu croiser au bord de la route. Ou voilà.
Et ça fait du monde.
Ça fait du monde. Et une fois qu'on a nettoyé à peu près le coin où l'on est, normalement, il y a moins de monde. Mais ça m'arrive, oui, très souvent, quand je vais me balader dans les vieux villages ou quand on va au restaurant, oui, il y a souvent... Ou dans la nuit, ça arrive souvent dans la nuit. La nuit, selon les périodes de l'année, parce que le voile entre les deux mondes est plus ou moins fin, en fait, dans l'année. Il y a vraiment des périodes où même avant la pleine lune, avant les nouvelles lunes, là, deux jours avant, deux jours après, il y a souvent du monde qui vient, effectivement. Donc on se fait réveiller, on se fait secouer ou on se fait avec des tapes dans les mains pour se faire réveiller. Ça arrive et on voit, moi je vois du monde au bout du lit, oui. Ça surprend parfois parce que de temps en temps, effectivement, la personne avec qui vous êtes n'est pas forcément au courant de la chose.
Mais justement, pourquoi la nuit ?
La nuit, le voile entre les deux mondes est plus fin. Donc surtout, moi je constate plus vers 2h, 2-3 heures du matin, là il y a vraiment un créneau où vraiment le monde est très fin, le voile entre les deux mondes est très fin, du coup la communication est plus faisable. Et puis il y a aussi le fait que c'est pareil pour les maisons hantées en fait, c'est pas tout le temps, il n'y a pas tout le temps de manifestation, ça va se faire qu'à certaines heures, qu'à certains jours dans l'année, là où le voile en fait est très fin. Donc le défunt, pour interagir sur la matière, il a quand même globalement, à moins que ce soit quelqu'un d'assez costaud, mais normalement, il faut que ça soit quand même propice. Donc ça peut être des bruits, des choses comme ça qui n'interviennent qu'à certaines périodes de l'année. Ouais. C'est pas tout le temps. Mais ça arrive aussi la journée, mais c'est souvent le soir. Hein. De toute façon, la nuit, tout ce que les mythes et légendes, même au fin fond des campagnes, ont repris, il y a du vrai là-dedans. Hein. Même les fêtes païennes... la Toussaint qui a été calquée sur des anciennes fêtes celtiques, druidiques, de toute façon c'était fait à des moments de l'année où la communication avec l'au-delà était le plus propice.
Il y a quelques années en arrière, le regard sur les voyants médiums était extrêmement sceptique. Est-ce qu'aujourd'hui tu vois un changement dans ces perceptions-là, dans ces regards ?
Oui, c'est vrai que ça se démocratise de par les réseaux sociaux. Les gens s'ouvrent globalement, c'est-à-dire que les... Alors là, moi, je vous parle avant Covid, hein, quand même, avant ces histoires de Covid, mais les énergies planétaires montaient, en fait. Il y a une énergie, un taux vibratoire pour chaque chose que l'on peut calculer, ça peut se faire au pendule. Ouais. Et le taux vibratoire de la planète avait vraiment... du temps de nos grands-parents, on était à du 9000, 10000 bovis, c'est l'unité. Et dernièrement, avant Covid, on était dans les 40000. Et finalement, on allait vers une progression donc, qui permettait une connexion au divin beaucoup plus facile. Donc dans les familles, beaucoup de gens quand même ont des perceptions. Et puis, je pense que les langues se délient. Même des personnes d'un certain âge, j'avais fait une conférence et à la fin, tout le monde avait une histoire à me raconter. Entre le grand-père qui était décédé à une certaine heure et l'horloge s'arrêtait systématiquement à cette heure-là tous les soirs, ou dans toutes les fermes au fond de la campagne, il y a beaucoup d'histoires par rapport à ça. Hein. Des personnes qui se sont visitées la nuit, des veuves qui parlent à leur défunt mari depuis 15 ans, hein. il y en a un paquet en fait. Hein. Donc ça se démocratise, et puis la télé, c'est vrai qu'il y a des personnes comme Patricia Daré, comme d'autres, il y a eu pas mal d'émissions. Alors souvent, c'est souvent tourné quand même encore à la dérision au niveau des émissions, mais je me souviens de Patricia Daré qui avait été chez Ruquier, elle s'en était pris plein la tête, mais ça fait quand même le job où il y a quand même un petit message qui passe, une petite graine qui est semée, et puis à un moment donné, les gens s'ouvrent ou pas. Et puis, il y a aussi beaucoup, comme je disais, les jeunes enfants qui, même dans des familles pas du tout là-dedans, moi, la dernière fois, on m'a appelé, les parents cadres supérieurs sur Paris, tout ça, pas du tout là-dedans, et leur petite voyait, en fait, la grand-mère qu'elle n'avait pas connue, qui était morte depuis 15 ans. Donc, il a bien fallu que la famille se rende à l'évidence. Un peu au début, dans la panique, et puis finalement, après, ça s'est bien passé. Et la petite sera sans doute une grande médium parce qu'on le voit tout de suite d'un point de vue de l'âme. Parfois, ça envoie pas mal. Ouais. Donc tout ça mis bout à bout finalement. mais c'est global, hein, c'est pas que forcément en France. On était un petit peu en retard par rapport aux Nord-Américains, au nord de l'Europe, aux pays anglo-saxons, et puis là, je pense qu'on rattrape un petit peu le retard aussi. Moi, j'avais du monde au Québec, Canada, ça c'était très ouvert, ils avaient 20 ans d'avance sur nous, hein, finalement, là-dessus. Hein. C'est parce qu'on vient de loin.
Qu'est-ce qui peut faire, selon toi, justement, que dans notre culture, ici, là, on n'est pas à cette ouverture-là?
La religion, je pense, a fait beaucoup de mal. La religion catholique, qui apportait quand même une spiritualité aux gens, hein. D'ailleurs, c'est peut-être ça le problème aussi d'aujourd'hui, c'est que finalement, les gens, on leur a dit, tout ça, ça ne sert à rien, vous n'avez pas besoin de ça, donc les églises sont vides, mais les gens n'ont pas substitué cette spiritualité, donc l'église faisait un peu le job, mais elle mettait quand même dans des carcans, des peurs. La médiumité encore aujourd'hui, moi lorsque je remonte, parce que je suis originaire comme ça de voilà, sud de l'Oise, nord de Seine-et-Marne, c'est des paroisses quand même où il y a encore énormément de catholiques pratiquants, les soins énergétiques, faut même pas en parler, c'est-à-dire qu'il y a un prêtre officiel que l'église dépêche qui est capable de faire des soins énergétiques, tout le reste on est diabolique. La médiumité, c'est même pas la peine d'en parler aussi pour des personnes qui ont quand même qui sont catholiques pratiquantes. Il y a quand même la religion qui a bien muselé tout ça, parce qu'au fin fond des campagnes, finalement, le rebouteux était toujours là. Il y a toujours eu cette culture-là, mais qui était quand même, qui faisait peur et qui a fait peur à certaines institutions, quoi.
Ta vie en tant que canal énergétique ressemble à quoi, en fait? J'imagine que ça ne doit pas être de tout repos.
Oui, il y a eu des périodes compliquées, des périodes où voilà, on se fait réveiller la nuit, où on doit, quand il y a des catastrophes aussi planétaires, entre guillemets, c'est vrai que la nuit, on est plus ou moins appelé, donc moi ça m'est arrivé quand il y avait eu les attentats du Bataclan de faire passer un couple de jeunes là qui s'était fait tuer, donc c'était pas forcément si simple, et en plus il y a les émotions qui vont avec, et parfois ben c'est vrai qu'on a même des lots de personnes à faire passer quand c'est des tsunamis, des choses comme ça. Bon, moi j'ai pas eu à faire, mais il y a des personnes, des copains médiums qui ont vraiment des grosses équipes à faire passer, et du coup il faut faire le job, en fait on est là pour ça, et de toute façon même si on refuse, en fait quand vraiment c'est important, on vient nous chercher et il faut le faire. Puis après, bon, moi je nettoie aussi les maisons, donc il y a vraiment des maisons où c'est du lourd et les personnes tombent malades ou vont mal en tout cas à cause de la maison chargée. Donc il y a quand même, voilà, je travaille le dimanche, on m'appelle la nuit, j'interviens quand même pour aider les gens. Il y a quand même la notion d'aide à la personne qui parfois est en grande difficulté, même sur des soins énergétiques, hein, des personnes qui attrapent des problèmes énergétiques, des parasites énergétiques, des choses assez importantes, limite possession, parce que ça peut aller jusque-là, ça peut aller loin, hein, dans les énergies négatives, parce que voilà, hein, tout n'est pas bisounours, il y a quand même le côté énergie négative qui existe, hein, l'ombre et la lumière, c'est un équilibre, mais parfois on le croise de près, ouais. Ça arrive.
Donc en fait, qui fait appel à toi et quand, à quel moment quelqu'un va se dire « voilà, je dois vraiment faire appel à un médium », comment ça se passe ?
Souvent, ça peut être lorsque le sommeil ne va plus d'un seul coup, lorsque la personne va avoir des envies suicidaires. Il y a eu pas mal de personnes qui ont eu à un moment donné, alors tout ne vient pas forcément de l'énergétique, hein, mais parfois, quand les personnes changent vraiment rapidement de personnalité, qu'on en est au bord du suicide, parce qu'en fait on peut attraper, lorsqu'on a une aura qui est abîmée, qui ne joue plus le rôle de protection naturelle, on peut attraper des entités un petit peu errantes comme ça, et aussi des parasites énergétiques qui sont plus des sortes de miasmes un petit peu énergétiques, et qui en fait plombent la personne, mais vraiment d'un point de vue du moral et de la personnalité. Donc ça peut aller loin, ça peut aller loin. La dernière fois, qu'est-ce que c'était ? Une personne qui se réveillait avec des griffures toutes les nuits. Donc ça peut arriver aussi que dans les maisons, d'un seul coup, quelque chose arrive et plombe. Les gens, en fait, sont de plus en plus sensibles. Donc en fait, à un moment donné, soit eux, soit leur entourage leur dit « tu devrais quand même creuser de ce côté-là ». Même des médecins généralistes, hein, qui aujourd'hui, moi, m'envoient du monde. Quand à un moment donné, puis moi, je demande systématiquement s'ils n'ont pas creusé du côté de la médecine classique. Donc du coup, voilà, mais tout, voilà, ça peut être des médecins qui m'envoient du monde. Enfin, à un moment donné, même chaque professionnel de santé, à un moment donné, quand même, se pose la question, aujourd'hui.
À quel moment, justement, le médecin va pouvoir discerner s'il s'agit d'un trouble psychologique ou d'une intervention autre, d'une énergie dite négative ?
lorsqu'il arrive au bout du traitement, à un moment donné, il se dit là, je ne peux plus rien pour vous, essayez ça. Alors après, il y a toujours le côté psy où moi, je pense, d'après ce que j'ai pu croiser, que la moitié à peu près, enfin oui, un bon pourcentage de personnes en psychiatrie, c'est juste des problèmes énergétiques. C'est-à-dire que ce sont des personnes très sensibles qui, à un moment donné, attrapent des entités, des parasites énergétiques, des choses comme ça, ou des énergies négatives, et qui ne sont pas traitées, qui n'ont pas eu la chance de connaître quelqu'un qui leur a dit « essaye ci, essaye ça ». Mais ça, c'est une réalité en hôpital psychiatrique. C'est des lieux en plus très chargés, comme les hôpitaux, où vous avez beaucoup de défunts qui y restent, et donc ça plombe énormément les personnes déjà. Parce que aussi, il faut aussi le dire, les personnes, les professionnels de santé, moi je vais parfois dans les hôpitaux hein, quand même, comme ça, pour accompagner des personnes, ce qui plombe le personnel de santé, c'est leur rythme de travail, c'est vrai, ça travaille énormément, mais c'est aussi le côté énergétique du lieu, hein, qui est très très plombé. Parce qu'en fait, lorsqu'il y a un défunt dans une pièce ou dans un bâtiment, le taux vibratoire, l'énergie du lieu chute. Et donc, du coup, à un moment donné, ça fait vase communicant. Donc, la personne qui y travaille, qui a un taux un petit peu plus élevé, ben, en fait, elle va se faire un petit peu pomper énergétiquement. Et du coup, ça génère d'énormes fatigues. C'est bien dommage, d'ailleurs, que les chambres ne soient pas forcément nettoyées ou régulièrement, parce que ça serait faisable. Et c'est vrai qu'il y a aussi, en Occident, un problème. Dans les villages d'ici, il y a énormément d'âmes errantes. Énormément. Vous allez en Inde, vous allez au Tibet... dans tous les pays où la spiritualité est encore là et toute cette culture, il n'y a aucune âme errante quasiment.
Qu'est-ce qui l'explique alors ?
Ben, le fait que la religion ne fait plus son boulot, que les gens, en fait, même en allant à l'église, finalement, c'est juste pour le paraître et la foi n'est pas forcément là. Donc derrière, peur de la mort et puis voilà. Et puis aussi tout le cérémonial autour de l'enterrement. Aujourd'hui, trouver un prêtre, ça relève de l'exploit. Bon, même si le prêtre fait quand même le job de par la prière, de par la foi qu'il a, normalement, il allège l'âme quand même. Dans les églises aujourd'hui, même pendant un office, il y a quand même quelque chose qui se passe. Parce qu'il y a des psaumes de réciter, parce qu'il y a l'intention. Le Notre Père, c'est un mantra très puissant finalement. Et donc du coup, ça fait le job. Mais aujourd'hui, lorsque les personnes sont enterrées à la va-vite par des non-prêtres ou par des gens qui n'ont pas le temps. Je pense que c'est compliqué. Et puis dans les familles aussi, les gens, je pense, ne se recueillent plus comme avant. La veillée des corps, allumer une bougie, oulala, faire une pensée, oulala. Donc du coup, tout ça joue et fait que les personnes restent quand même pas mal. Moi, lorsque je vais à des enterrements, parce que ça m'arrive d'aller à des enterrements, le défunt est toujours là, quasiment. Toujours, moi je l'ai toujours vu là. Et souvent, il attend pour passer vers la lumière, en fait, après la mise en bière, il passe. Donc, bon, il n'est pas là pour voir qui vient et qui ne vient pas, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de ça. Mais c'est surtout que, voilà, ça lui permet de faire vraiment le sas. Et puis, donc, c'est là où il faut quand même, faut y aller avec l'intention. Et puis ça marche, hein, y a pas de problème. Ça peut être pareil lorsque la personne veut brûler une intention, une bougie ou quelque chose comme ça. Pas besoin forcément d'aller dans une église ou dans un lieu puissant. Hein. L'intention au coin du salon ou la bougie allumée au coin du salon marche aussi bien qu'une bougie allumée au fin fond de l'église. Il n'y a pas forcément de... Vous n'êtes pas un meilleur, vous n'allumez pas une meilleure bougie avec l'intention qui ira avant celle qui sera allumée au fond du salon. Le tout, c'est l'intention de toute façon. Donc l'intention, la puissance de l'intention et la foi que vous y mettez, que ce soit n'importe où, ça marche.
Tu parlais d'hôpitaux tout à l'heure. Qui fait appel à toi dans les cas éventuels de passage dans les hôpitaux? Est-ce que ce sont les familles ou est-ce que ce sont les structures même?
Dans les hôpitaux, non, moi je ne suis jamais intervenu dans les hôpitaux. On m'appelle, par contre, c'est plus le côté soins énergétiques dans les hôpitaux où la personne, par exemple, lorsqu'elle fait une chimiothérapie classique ou... Ses taux vibratoires sont tellement bas à chaque chimio que le soin énergétique a quand même de l'utilité, permet de remonter son taux vibratoire, donc son énergie propre, et du coup... ça lui permet quand même une guérison sans effet secondaire. Enfin, ça met toutes les chances de son côté, finalement, pour continuer son traitement. Puisque moi, j'ai eu des personnes proches qui ont fait des vrais chimios. C'est pas de l'eau, hein. C'est vrai qu'à chaque injection de chimio, les taux vibratoires diminuent de moitié, et finalement, à un moment donné, la personne est tellement affaiblie que le corps a du mal à remonter la pente. Donc, c'est plus les familles, ça va être plus dans ce cadre-là, moi, que j'interviens. Voilà. Alors, tout peut se faire aussi, oui, petite précision, tout peut se faire à distance. C'est-à-dire que dans les énergies, il n'y a pas de notion de distance. Donc, moi, ça m'arrive de nettoyer des maisons en Uruguay à distance, hein, même si j'aimerais bien y aller de temps en temps. Voilà, les soins énergétiques, c'est pareil. Il faut juste un support, en fait, une photo pour faire ce qu'on appelle la syntonie, pour que vraiment la connexion se fasse, mais pas besoin d'être sur place. Donc, ça aide aussi, ça aide.
Pour parler des lieux, justement, au niveau des agences immobilières, est-ce qu'il arrive que certaines agences immobilières fassent appel à tes services pour pouvoir vendre un bien plus facilement, pour assainir le lieu, pour que ce soit plus accessible ?
Alors pour le moment, pas de manière officielle, parce que contrairement aux pays anglo-saxons, où lorsque vous avez un lieu où il se passe des choses, un pub ou un château hanté, ils en font la pub pour attirer le chaland, en France c'est un petit peu tout caché. C'est-à-dire que au niveau des affaires, on a toujours l'impression que ça ne va pas aller dans le bon sens. Donc c'est plus ou moins caché. Mais par contre, oui, des agents immobiliers qui me disent là, ça te dirait pas de regarder parce que la maison n'arrive pas à se vendre. Alors souvent, lorsqu'il reste des défunts dans la maison, c'est compliqué pour vendre. Quand il s'est passé des choses effectivement sérieuses, meurtres, etc. C'est vrai que ça imprègne quand même bien les murs. Puis parfois, il y a des énergies négatives. C'est-à-dire que la fameuse notion de mauvais œil, de magie noire, etc., selon les cultures, c'est déjà beaucoup utilisé selon les cultures, hein, finalement, encore aujourd'hui, et même nous, au fin fond des campagnes. Et parfois, ce qui se passe, c'est que la personne va être plombée, va être mise sous énergie négative, la maison aussi. Donc là, c'est le packaging d'enfer, comme dirait l'autre. Et lorsque cette personne finalement s'en va, la maison souvent reste sous énergie négative. Et là, les futurs acquéreurs ou ceux qui ont hérité de la maison, c'est compliqué pour la vendre. Hein. Tout de suite, on sent quelque chose. Le but, c'est de bloquer. Hein. C'est de bloquer et de plomber la personne et de la bloquer dans tous ses domaines de vie, quoi.
Ça peut expliquer certains biens qui restent à l'abandon et que personne n'arrive à acquérir.
Ah oui, moi on m'a appelé une fois et effectivement la maison ne se vendait pas. Il y avait encore les anciens propriétaires. Et une fois que les personnes sont passées... Parce que parfois c'est pareil, les personnes ne veulent pas forcément aller vers la lumière. Parfois elles restent dans la maison. D'ailleurs que moi je demande toujours, je rentre en contact... Il y a un petit dialogue qui se fait, voilà, des fois elles me racontent un peu leur vie, ce qui s'est passé, pourquoi elles restent, ce qu'elles aimeraient avoir. Et une fois que que les personnes sont rassurées ou qu'il y a un petit message à passer, ça peut arriver, tout de suite elles partent. Mais ça arrive aussi que la personne dise « bon non, moi j'ai pas envie de partir, je suis très bien là » et dans ces cas-là, ben, elle y reste. Hein. Et il faut annoncer au propriétaire... qu'il vivra avec eux. C'est ce qui fait l'âme de la maison, c'est ce qu'on retrouve dans les vieux châteaux, dans les vieilles demeures où il y a toujours du monde et tout le monde cohabite très bien ensemble finalement.
À condition bien sûr que l'entité présente soit assez sympathique.
Oui, bah souvent c'est sympathique, hein. Souvent une entité non sympathique, vous y restez pas une nuit, ça vous sort du lit, c'est quand même relativement rare. Ça arrive mais c'est rare.
Mais justement, faut-il en avoir peur ?
Je pense qu'il faut mieux avoir peur des vivants que des morts, grosso modo, non, je pense non, il ne faut pas en avoir peur, de toute façon ils ont quand même du mal à interagir sur la matière, sauf cas exceptionnel, donc normalement, pas de raison d'en avoir peur, et en plus les énergies de peur, alors plus facile à dire qu'à faire, mais les énergies de peur sont des énergies terribles, hein. Ça bloque, ça ouvre des portes, ça crée des brèches dans l'aura, et c'est là où vous pouvez attraper tout et n'importe quoi. Mais voilà, faut être droit dans ses bottes, avoir une force inébranlable et quoi qu'il arrive, non, faut pas en avoir peur. Éviter à tout prix aussi tout ce qui est spiritisme et quoi d'autre ?
Ouija peut-être.
Oui, voilà, c'est ça. Parce que là, vous ouvrez quand même des portes. Parce qu'en fait, les personnes ont quand même beaucoup de capacités, hein, globalement. Donc ça marche très bien. Donc il n'y a pas un médium qui vous conseillerait de faire ça, parce que vous allez ouvrir des portes qui vont vous amener pas des super entités, c'est que du bas astral, ce qu'on appelle, donc des entités basses. Ça va rester. Et donc après, il faudra les faire partir et fermer la porte. Là, j'ai eu C'est une amie qui m'avait appelé pour intervenir sur une adolescente qui avait fait ça, et ça a été compliqué parce que c'était quand même du lourd. C'était du lourd. Donc, à éviter, c'est ça, tout ce qui est spiritisme, tout ce qui est film d'horreur, moyen aussi, hein, parce que ça ouvre quand même des portes émotionnellement, ça crée des peurs, ça crée des choses... Moi, je suis pas un grand fan des films d'horreur non plus, quoi. Je trouve que ça peut ouvrir des portes sur des lieux déjà chargés. Parce qu'en fait, il y a vraiment des lieux qui sont des sortes de portes naturelles. Hein. Et si vous regardez, si vous avez des émotions à ces endroits-là, ça peut être quand même compliqué à gérer. Hein.
Et en ce qui concerne les pendules, justement.
Le pendule, oui, ça peut ouvrir des portes aussi. Ouais, tout ce qui est pendule, tout ce qui est divination et pendule, ça peut. Après, il faut demander protection. Alors, on peut demander protection à l'univers, mais ou se faire encadrer dans un premier temps, parce que c'est pareil. Le problème, c'est que le pendule, il faut le faire dans de bonnes conditions. Il faut être soi-même dans de bonnes conditions. Il faut être dans un lieu propice. C'est sûr que si vous faites ça dans un lieu très chargé, voilà. Alors, petite précision aussi. Finalement, les cimetières ne sont pas les lieux les plus chargés. J'entends par là, il n'y a pas forcément, ce n'est pas le lieu où il y a le plus de défunts errants. Beaucoup de cimetières où il n'y a pas grand monde, quasiment personne. Les lieux où il y a le plus de monde, on va être sur du château qui a 1000 ans, qui a ouais, des vieilles maisons de 500 ans, 600 ans, enfin voilà. Et la forêt des fois, parce que dans la forêt finalement... il y a pu y avoir un ancien site gallo-romain ou des choses comme ça, et du coup, on pense que c'est qu'une forêt, et en fait, la nuit, c'est assez agité. Ouais.
D'accord. Et en ce qui concerne l'écriture automatique ?
Ah oui, ça aussi. Voilà, c'était ça dont je cherchais. Écriture automatique, non. Alors, il y a deux choses. Il y a l'écriture médiumnique et l'écriture automatique. L'écriture médiumnique, c'est ce que les médiums font, c'est en fait, vous entendez, vous avez en tête ce qui se lit. Vous voyez là le défunt parler, vous l'entendez, et là vous écrivez, c'est votre écriture, c'est votre bras qui bouge. C'est tout simple, c'est comme si quelqu'un vous dictait quelque chose et que vous preniez par écrit. L'écriture automatique, qui se faisait beaucoup il y a quelques années, bah c'est en fait une sorte de spiritisme, hein, c'est-à-dire que vous laissez le bras ballant, le stylo au bout, vous connectez, vous ouvrez une porte ou vous invoquez je ne sais qui, et du coup l'entité prend en fait le bras, votre bras en possession entre guillemets, et se met à écrire. C'est pas votre écriture, vous contrôlez pas le... Et ça, c'est du spiritisme, quoi. C'est que du bas astral, sauf personnes protégées. Le problème, c'est que, pareil, les personnes qui font du spiritisme, vous avez naturellement, de par les vies antérieures, oui, parce que ça aussi, on n'en a pas parlé, les vies antérieures vont avoir une certaine protection parce qu'elles ont un bagage spirituel, etc. Donc ces personnes-là, il n'y aura pas de problème, mais ça, c'est la roulette russe. Avant d'être dans le domaine, vous ne savez pas si vous êtes protégé ou pas.
Et comment le savoir, justement ?
Eh bien, on le sait après, lorsqu'on prend contact avec ces guides de lumière, avec les personnes de l'autre côté, où vous avez des indications et vous avez des rêves, il y a d'autres médiums qui vous donnent l'indication, c'est tout un chemin, quoi. Dès le départ, on ne peut pas vraiment le savoir.
Et justement, pour revenir à ça, devant la recrudescence actuelle de chasseurs de fantômes et autres urbex, donc les urbex, ce sont des interventions dans des lieux inhabités, souvent illégales. Je précise, que l'on voit apparaître sur le net, ce qui prolifère, qu'est-ce que tu aimerais dire par rapport à ça, à tout ce public qui se nourrit de ces contenus, qu'est-ce que tu pourrais dire ?
Ben oui, je regarde, moi des fois, ça m'arrive de regarder des vidéos, oui, de l'exploration urbaine, le problème c'est que parfois, en fait, il y a des lieux qui clairement, même moi, sauf intervention, parce qu'on m'appelle, j'y mettrai pas les pieds, hein. Réellement, il y a vraiment des coins où aujourd'hui c'est trop chargé, où c'est réservé à l'ombre, et aller y faire un tour, c'est à coup sûr quand même s'attirer éventuellement des soucis. Alors au mieux on se fait une grosse frayeur, au pire on revient avec quelqu'un. Donc c'est le problème. Et même toutes les émissions, les Ghost Adventures, les choses comme ça, où ils vont sur des lieux hantés pour enregistrer avec du matériel moderne les entités... C'est quand même souvent du lourd, quoi. Et je trouve que c'est un jeu qui peut être un petit peu dangereux, sans parler du défunt qui reste. Ça, c'est le cas dans les châteaux type écossais, où finalement, ils en font un business. Et quand vous discutez un peu avec l'entité qui est dans le château, elle vous dit, en fait, en avoir ras-le-bol, grosso modo, de voir ces espèces de curieux qui viennent. C'est pas forcément sympa, au moins, c'est pas sympa pour celui qui y est. L'entité peut être souvent en souffrance. De toute façon, si elle n'est pas passée directement, c'est qu'il y avait un souci dès le départ. Donc, Je sais qu'ils font souvent d'exploration urbaine dans les anciens hôpitaux, les anciens sanatoriums, les anciens pensionnaires. C'est pas des âmes sympas qui restent, hein. Sinon, ça se saurait, elles seraient passées, hein. Donc c'est quand même des âmes en peine. Et pareil, la personne qui est sensible et qui a une brèche dans l'aura ou qui est passeur d'âme sans le savoir, ben c'est un coup à revenir avec, quoi.
Et justement, quand on est passeur d'âme, quand on est médium ou sensible, est-ce que c'est pas possible de rendre service, si ces entités le souhaitent, de les aider à repartir ?
Si, ça m'arrive. Alors, quand c'est un lieu très grand, très chargé, bon, je pense qu'il faut parfois être à plusieurs. Mais moi, ça m'est arrivé sur des accidents de voiture d'aller effectivement voir, parce que je savais qu'il fallait que j'y aille, j'avais l'information, et parce que la personne était restée sur le coin de la route et qu'il fallait la faire passer. Bon, quand c'est une, deux personnes, voilà. Il y a des coins où je ne m'y frotte pas plus que ça. Je pense dans le nord, là, il y a une forêt du côté de là où je suis originaire, Hermenonville, où vous avez eu un des plus grands crashs aériens fin des années 70, dans la pleine forêt, il y a à peu près 330 personnes. Bon, j'évite d'y aller, quoi. J'évite d'y aller parce que je sais que je vais revenir avec du monde, je sais que ça va être super compliqué, et puis vous avez les émotions avec, donc entre la petite fille... la mère de famille qui a laissé son enfant, etc. C'est pas évident. C'est-à-dire, quand vous voulez vous balader le dimanche, ça n'est pas le lieu le plus propice, quoi.
C'est voilà. Pas touristique, en fait.
C'est ça. Mais effectivement, normalement, on a ce rôle-là et on peut. Mais le problème, c'est que sinon, on n'a plus de vie et on est partout.
Et justement, est-ce que ça t'arrive de dire non, j'y vais pas ?
Non, quand on m'appelle, j'y vais, même des fois, quand c'est le dimanche, quand c'est... Alors, il peut y avoir la personne physique qui m'appelle, et puis aussi, des fois, l'information, on me dit, là, tu devrais y aller, là, on a besoin de toi, tout ça, donc non, ça se refuse pas, mais c'est finalement assez rare. Quand vraiment, on doit nettoyer un lieu, souvent, on y arrive, ça va être un lieu de location aussi, ça m'arrive quand je vais louer quelque chose, je tombe dans un lieu hyper chargé, je vais être là pendant une semaine, bon, là, je le nettoie. Non, parce que sinon, effectivement, j'arrêterai pas.
Quand tu dis « on me donne l'information », c'est-à-dire qui te donne cette information ou quoi ?
Alors oui, on a au-dessus, on a des personnes...
Et comment ?
Oui,
et comment ?
On a des personnes qui nous chapeautent, en fait. Il y a tout un système de vie antérieure. On a des milliers de vies antérieures, sur Terre ou ailleurs, d'ailleurs. Et on a ce qu'on appelle des guides de lumière, c'est-à-dire ce sont des personnes, avec qui on a fait des bouts de chemin ou pas, sur des vies anciennes, ou pas, d'ailleurs. Des fois, ils ne se sont pas incarnés sur Terre. Ils sont là pour nous chapeauter. On les partage avec d'autres. C'est un petit peu ce que la religion a repris sous le terme d'ange gardien. Donc c'est-à-dire qu'on en a au moins un, il y en a d'autres qui viennent au fil de l'existence quand on a des choses précises à être enseignées, à apprendre, les épreuves qui arrivent, et puis voilà, ça peut changer aussi au cours de l'existence. Et donc ces personnes-là, ce sont les personnes qui vont nous donner des infos. Donc moi quand je fais des canalisations, ça m'arrive de prendre aussi des messages des guides de lumière là, de gens qui viennent me voir parce qu'elles ont besoin d'informations, de guidance et ça passe par elles parce qu'elles nous connaissent par cœur et elles veulent nous aider, mais bon, c'est plus compliqué quoi, c'est pas forcément évident d'aider facilement, donc parfois on est perdu, parfois on veut l'indication, voilà, c'est ça la notion de guide de lumière qui nous aide, qui nous protège aussi, hein, ça arrive hein, dans des accidents, dans des choses comme ça, on a des coups de main. Parfois, il y a plein de témoignages, même de j'avais lu un reporter de guerre là, qui était visé par un sniper, au dernier moment on l'a poussé, en fait, il n'a jamais compris qui l'avait poussé, et la balle, en fait, du coup, lui est passée à 3 cm de la tête. Donc voilà, ça c'est clairement une intervention de l'extérieur. Il y a plein de... On est sauvé en fait régulièrement, hein, on ne le sait pas, mais moi-même, hein, on a eu plein d'accidents où ça aurait pu se jouer à rien et finalement on est quand même aidé de temps en temps.
Une autre question qui est plus à même aux vivants ou pas, je ne sais pas, est-ce qu'on a déjà fait appel à toi, je pense notamment au service de police, pour retrouver des personnes, des disparus ou autres ?
En France, ça ne se fait pas trop le coup des services de police. Les anglo-saxons marchent beaucoup avec ça, même si légalement ça n'a pas de preuve, ils se disent on va mettre toutes les chances de notre côté. Moi, c'était plus des particuliers qui m'appelaient, par exemple, pour les animaux, mais j'ai arrêté de le faire, puisque le problème, c'est que je repérais plus ou moins l'animal, et puis le temps d'y aller, le temps, en fait, l'animal était parti, quoi. Mmh. Donc ça créait, ça décevait les personnes. Je préfère rediriger, il y a des personnes qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Il y a vraiment des sensibilités dans chaque domaine. Vous avez des gens qui vont être très forts dans la recherche d'animaux ou de personnes, hein. Des gens qui vont être très forts dans la recherche d'eau. Bon, ça c'est pareil, moi j'en fais, mais bon, c'est pas mon cœur de métier. Enfin voilà, c'est un ensemble. Et puis bon, on peut pas être bon à 100% partout, donc vous avez des très très bons médiums, des très très bons, des très très bonnes personnes qui font des soins énergétiques. Chacun en fait se complète, puis faut pas hésiter à renvoyer. L'essentiel c'est que la personne finalement, on aide la personne, et puis voilà. Mais c'est vrai que du coup, dans les personnes disparues, souvent aux informations, etc., on n'a pas la même grille de lecture, hein. Ça m'est souvent arrivé, et même à moi comme à d'autres, hein, de savoir très clairement ce qu'il était advenu de la personne qu'on recherchait, quoi. Donc ça arrive, ça. Bon, on ne peut pas en faire grand-chose, parce que voilà. C'est pareil, si vous appelez et que vous dites « je sais ce qui s'est passé », bon, ça, c'est moyen. Et pareil, dans les émissions de crimes, de choses comme ça, c'est la mode en ce moment, dès que, comme l'âme en fait, peut se lire même à travers une photo... Très clairement, il y a des personnes, vous savez très bien que ça tournera aux fêtes d'hiver tôt ou tard, hein, c'est sûr. Même s'il y a le libre arbitre, que la personne s'améliorera, ira vers la lumière peu à peu, etc. Il y a franchement des personnes, des âmes, vous savez que ça tournera au drame tôt ou tard, quoi. Et des fois des jeunes enfants, hein, dès les jeunes enfants d'ailleurs.
Et ben là justement, on va passer à Mathieu, l'homme, l'humain. Des fois, c'est pas un peu trop difficile d'être confronté à tout ça, non pas en tant que médium, mais en tant qu'humain.
Ah ben c'est sûr que oui, humainement c'est dramatique parce que parfois il y a quand même, il peut y avoir par exemple des contrats d'âme avant l'incarnation, deux âmes se disent bon ben voilà, on se lie ensemble, moi je partirai, je serai ton fils et je partirai à 5 ans pour que toi te faire travailler ça, la peine, etc. Oui, humainement, quand on est sur place, c'est compliqué. Et puis, on ne peut pas forcément dire à la personne, bah oui, c'était prévu que ton fils meure à 5 ans pour te faire évoluer. Donc, il y a forcément des choses où il faut prendre un peu plus de pincettes. Mais moi, ça m'est arrivé plein de fois où, au cours de... Quand les personnes viennent pour avoir des consultations, très clairement, c'était prévu comme ça, quoi. La sœur qui s'en va plus tôt... laissant tout le monde dans la peine, mais justement, il faut gérer la peine. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui nous dépassent humainement, c'est quand même compliqué, et c'est sur un grand plan qui nous dépasse, un grand puzzle, et une pièce plus une pièce, en fait, fait un ensemble. Voilà, faut vraiment prendre de la hauteur, et même en prenant le maximum de hauteur, je pense qu'on perçoit pas encore l'entièreté du puzzle, quoi.
Alors en continuant à prendre de la hauteur, tu parlais des animaux tout à l'heure, je suis sûre que ça touche beaucoup de personnes. Qu'en est-il des animaux ?
Les animaux ont une âme aussi, pareil, on peut faire des soins énergétiques sur les animaux, hein, ils ont leur propre centre énergétique, ils sont souvent très sensibles. Hein. Il y a entre les règnes, alors à un moment donné je pensais, moi et d'autres, qu'il n'y avait pas de correspondance entre le règne animal, le règne humain, etc., ça, moi, j'en reviens. Je pense qu'il y a vraiment des passerelles où vous avez certains chiens, on leur donnerait la parole, et grosso modo, c'est leur dernière vie. Je suis sûr qu'après, ils se réincarnent dans le monde humain. C'est quasiment sûr. Donc voilà. De toute façon, c'est un domaine où il n'y a pas de certitude en soi. Il y a toujours l'exception de l'exception. Après, ça m'est arrivé aussi dans les maisons de faire passer le chat qui avait été piqué dans la journée et qui n'avait pas compris qu'il était mort. Et il regrattait le soir, il faisait sa vie. Donc ça arrive, ouais. Ça arrive de voir des défunts avec leur chat aussi de l'autre côté. Les animaux accompagnent vraiment les humains, en fait. Quand j'étais plus jeune, c'est un truc qui me dépassait. Je pensais que les animaux n'avaient pas forcément... Enfin, qu'ils avaient une âme, mais voilà, pas plus que ça, quoi. Le côté un peu, c'est de ce n'est qu'un animal. Et en fait, c'est quand même bien plus que ça, hein. Ils sont vraiment quasiment au même niveau que nous. On les croise de l'autre côté, ils nous accompagnent. Et la sensibilité, très clairement, elle est aussi forte que chez nous, hein.
Donc, est-ce qu'on peut espérer les retrouver de l'autre côté ?
Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Hein. Ça arrive que le défunt de l'autre côté récupère son chat, son chien, et qu'il y a vraiment des amitiés très fortes, on le voit, hein, autour de nous, entre un homme et un animal. Hein. C'est ça. Les chevaux aussi, beaucoup. Puis, c'est vrai que les chats ont des taux vibratoires très élevés, les chevaux, enfin, ils ont beaucoup à nous apprendre, en fait, finalement. Ouais.
Apparemment, dans ce que j'ai lu, je n'irai pas le valider, tu vas peut-être nous l'expliquer, il est conseillé d'avoir, si on aime les chats, je précise, il est conseillé d'avoir plusieurs chats sous le même toit en fonction des membres de la famille.
Alors les chats ont la capacité, là c'est pareil, hein, le mythe de la sorcière, enfin, il n'était pas un mythe, mais le côté sorcière, chat de la sorcière, c'était ça, c'était le chat, c'est quasiment le seul animal qui est capable de transformer des énergies négatives en positives. Donc, lorsque le chat se met sur vous avec son ronronnement, il est capable d'apaiser, de transformer beaucoup de choses. Il est capable de se mettre aussi, parce que je fais un peu de géobiologie, donc sur des lieux énergétiques nocifs, le chat se met au milieu de nulle part sur ce lieu, il est capable de, un des seuls animaux à rester là-dessus, parce que lui, ça lui convient, et il transforme le négatif en positif. Et par contre, il est conseillé du coup d'en avoir au moins deux, parce que sinon, le pauvre chat, il se prend tout seul. Donc dans une maison chargée ou sur une personne qui est chargée, le chat au bout d'un moment il emmagasine. Et c'est vrai que c'était un chat. Le chat a toujours été vénéré par les Égyptiens. Il y avait quand même pas mal de bouteilles dans l'ésotérisme. Donc c'est quand même un animal particulier, le chat. Franchement, c'est quelque chose d'assez étonnant, le chat, énergétiquement.
Tu parlais de géobiologie. Pour ceux qui n'ont pas forcément la possibilité ou même la pensée immédiate de faire appel à un géobiologue ou même un médium, est-ce qu'il n'y aurait pas des petites choses à faire à la maison pour au moins assainir un petit peu l'atmosphère quand on perçoit qu'il y a quelque chose qui n'est pas très équilibré?
Oui, on peut. Alors, il y a plusieurs moyens. On peut brûler de l'encens, alors de l'encens de qualité. De l'encens de qualité que les religions d'ailleurs ont repris, la myrrhe, le benjoin, enfin, tous ces encens résines qui ont toujours eu le pouvoir de purifier. Il y a tout ce qui est les fumigations avec, il y a pareil, l'encens, le parti encens tibétain, il y a le Paolo Santo qui est un bois brésilien, ça peut être le bol tibétain pour purifier, ça peut être des pierres aussi, vous avez des personnes qui fonctionnent beaucoup avec des pierres pour purifier l'intérieur, ça peut aider, mais c'est vrai que ça ne fait pas tout, quoi. Ça ne fait pas tout, quoi. C'est des lieux vraiment très chargés. Vous avez aussi des lieux où, moi j'avais ça sur une maison que j'ai pu avoir, où c'était comme le cas d'une gare. Vous pouviez faire passer toutes les personnes qu'il y avait dans la maison, ça revenait systématiquement parce qu'il y avait un croisement énergétique bien particulier et du coup ça arrivait en flot constant. Donc il y a quand même des maisons où c'est un peu plus compliqué, hein, et puis il faudra vivre avec.
Et peut-être pour renseigner nos auditeurs, de quelle manière finalement tu procèdes ?
Sur tout ce qui est soins énergétiques, alors moi je ne touche pas la personne, grosso modo elle est allongée, alors pareil, hein, ça peut se faire à distance, pas de souci. Donc elle est allongée, je passe de chakra en chakra un petit peu, j'enlève les énergies négatives, réouverture des chakras, et puis je regarde aussi après tout ce qui est parasite énergétique, entité qu'elle peut avoir, je visualise l'aura, donc c'est un ensemble qui permet, il y a une sorte de trame, mais finalement il faut se laisser guider, pas vraiment, il n'y a pas vraiment de méthode. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler du Reiki, qui a permis de faire connaître un petit peu les énergies, c'est les mêmes énergies remises à la sauce japonaise, avec la notion de maître, de figure, etc., de niveau, d'enseignement, c'est pas trop mon, je suis pas trop un grand fan, moi je préfère me laisser guider, mais il y a des gens, ça leur permet de bien faire le job aussi, donc voilà. Mais c'est vrai que faut se laisser guider, faut être protégé, faut s'écouter, et puis finalement faut être à l'écoute de ses ressentis. Normalement la base du soin c'est ça, en fait, c'est qu'il y a des personnes, rien qu'en vous regardant elles savent à peu près ce que vous avez, l'aura, elles sont capables pareil de voir les trous dans l'aura, donc faut se laisser guider. Et pareil, hein, dans les soins énergétiques purs, chaque personne travaille différemment aussi.
Qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui découvre des capacités énergétiques à un certain âge, je dirais plus ou moins avancé?
C'est, à mon avis, aujourd'hui, vu les énergies actuelles, je pense qu'il faudrait que la personne... il y a beaucoup de personnes qui ont pignon sur rue, qui aujourd'hui font des stages ou des choses comme ça. Faudrait se mettre en confiance. Et pour se mettre en confiance, c'est vrai que la meilleure solution, c'est quand même des stages. C'est quand même des stages, alors à prix abordable. Hein, moi, je ne suis pas pour ceux qui facturent 3000 euros un stage. Pour moi, un stage, la moyenne dans les prix, on est sur du 150 euros, allez, 200 euros la journée... pareil pour un soin, hein. Un soin énergétique, c'est 50 euros, 70 euros, allez, dans les grosses villes peut-être 90, grosso modo, la personne qui vous, et on entend beaucoup d'arnaques par rapport à des marabouts, des choses comme ça, qui vous demande 3000 euros pour un soin, grosso modo, il faut le fuir, hein, à mon avis, hein. Il faut que ça reste quelque chose aussi à la portée des gens, faire un soin à 500 euros pour quelqu'un qui gagne modestement sa vie et qui ne peut pas se le payer... il y a un côté pas de bras, pas de chocolat, qui est un petit peu dérangeant à mon avis. Mais bon.
Mais est-ce que justement, c'est pas ça qui colporte l'information de charlatanisme ?
Et oui, et puis vous avez aussi les personnes qui pensent qu'en payant plus cher, le soin sera meilleur. Et en fait, non, c'est un peu comme un médecin. Hein. C'est très anglo-saxon ça aussi. Vous avez les médecins à 100 euros sont censés être meilleurs que des médecins à 50 euros. Et en fait, non, pas du tout. Et dans l'énergétique, c'est pareil. Moi, j'ai vu des gens qui faisaient des miracles au fin fond de la campagne. Dans les soins énergétiques, il y avait des gens du monde entier qui venaient la voir et elle prenait 30, 40 euros, je crois, pour s'occuper des personnes un peu autistes, sur des trucs compliqués. Mais voilà, le prix du soin n'est pas en rapport avec la qualité.
D'accord. Et pour finir, une question un peu virale. Que penses-tu de la situation actuelle sur le plan énergétique ?
Sans rentrer dans les détails et sans être trop plombant, c'est une situation inédite, très compliquée. Moi, je ne suis pas un anti-vaccin, mais sur cette notion-là, sur ce vaccin anti-Covid, franchement, j'aurais énormément de doutes. Alors, sans rentrer dans les détails, ça va être compliqué, mais en fin de compte, énergétiquement, on se tire une sacrée balle dans le pied. On a 2-3 ans, là, quand même, de grandes incertitudes, où on va être énormément chamboulé. Je pense que les dupes et les faussaires, à un moment donné, vont tomber et que beaucoup de personnes vont ouvrir les yeux, mais ça ne se fera pas dans la douceur, forcément. Voilà, c'est un petit peu le résumé du moment. Voilà, sans rentrer dans les détails des pour le vaccin, contre le vaccin, puisque finalement, les camps sont établis et chacun, aujourd'hui, a choisi son camp en son âme et conscience, comme dirait l'autre. Mais voilà, ça va être des périodes compliquées. Il faut tenir le cap, hein, il y en a toujours eu des périodes compliquées. Là, c'est vrai qu'au niveau des taux vibratoires planétaires, on n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu non plus le côté énergétique sur ce produit qui va sans doute être injecté à une bonne partie du monde. Donc, grosse incertitude là-dessus. Moi, c'est quand même le gros cœur du métier en ce moment. C'est-à-dire que les personnes qui se sont fait vacciner viennent me voir. Alors, vaccin anti-Covid, hein, je ne parle pas les autres vaccins. On ne trouve pas ça. Et commencent à avoir quand même des doutes, en tout cas, et ont besoin de soins énergétiques. Donc d'ailleurs, moi et d'autres, on met en place des soins énergétiques un petit peu spécialement pour ces personnes-là qui ont cru bien faire et qui finalement n'ont pas bien fait.
Quels sont les symptômes de la démarche quand on effectue justement une démarche pour venir te voir par rapport aux soins énergétiques post-vaccin? Quels sont les symptômes que peuvent ressentir les personnes qui font interpeller?
Ça va être... Ce qui se passe, c'est que lorsque la personne se fait vacciner, son taux vibratoire chute déjà. Donc est extrêmement bas, faille dans l'aura, donc ça veut dire qu'elle va attraper beaucoup de choses. Et puis vous avez les chakras qui sont touchés, chakra supérieur, donc ça commence au niveau du chakra couronne, ça descend, enfin ça contamine les chakras inférieurs jusqu'au chakra du cœur. Et donc ça n'ira pas forcément dans un bien-être de la personne. Moi je vois déjà des personnes changer autour de moi. Il faut se dire aussi quelque chose, c'est que les médiums et les personnes qui ressentent les énergies, aujourd'hui, lorsque vous vous baladez dans la rue, vous voyez qui a été vacciné et des non-vaccinés. Ça fait très mauvais film d'horreur, mais c'est comme ça. Donc c'est des ressentis que tout le monde a. Hein. Moi je connais un acupuncteur qui vous dit pareil, je ne comprends pas, comme si les personnes qui venaient me voir avaient un voile sur elles, un voile énergétique. Donc c'est tous les professionnels qui travaillent, les thérapeutes dans l'énergétique, dans différents domaines, qui constatent la même chose avec leurs propres mots. Hein. Donc c'est vrai que c'est quelque chose dont on va parler prochainement, en long, en large et en travers, mais peut-être ça pourrait être le cas dans une émission spéciale.
Tout à fait, et je crois savoir qu'il est question aussi de nouvelles conférences avec la médiathèque de l'Usège.
Oui, il faudrait que j'essaye effectivement de mettre ça en place. Alors, c'est toujours pareil, c'est toujours compliqué d'aborder ces histoires de vaccination, parce que on a bien vu sur les réseaux sociaux où finalement on est tout de suite étiqueté non politiquement correct, blacklisté. Est-ce que ce genre de conférence serait acceptée d'un point de vue d'accueil par rapport à la salle, par rapport à tout ça?
Nous arrivons au terme de cette émission. Un grand merci à Mathieu Pité pour sa présence à nos côtés. Mathieu, un mot pour la fin ?
Le mot pour la fin, ça serait éventuellement, effectivement, de se consacrer à son bien-être, de penser un petit peu à soi. Et puis, lorsque vous êtes bien énergétiquement et que le bien-être est là, à ce moment-là, vous pouvez rayonner et puis vous pouvez aider un petit peu toutes les personnes qui vous entourent. faut toujours penser finalement d'abord à soi, à mon avis, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue du bien-être, avant d'être efficace auprès des autres et de filer des coups de main. L'essentiel étant finalement le collectif. Et puis, bon, moi je le vois, de toute façon, il y a quand même une note d'espoir dans tout ça. Il y a beaucoup de gens qui se fédèrent, il y a beaucoup de gens dans les énergies qui se rencontrent. Il y a quand même des choses qui se mettent en place. Et donc, pour la lutte à venir, à mon avis, puisqu'on peut parler de lutte en tout cas, ça sera intéressant, oui. Mais gardez le cap dans la tempête.
Un grand merci à Mathieu. C'était Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Si vous souhaitez contacter Mathieu, vous pourrez le retrouver sur son site internet. Nous vous mettrons le lien et ses coordonnées avec le replay et sur la page Facebook Fenêtre sur soi ou par téléphone au 06 51 15 95 16. C'est bien ça ?
C'est bien ça, merci.
Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur les pages Facebook du cabinet Claude Duras et Fenêtre sur soi, mais également pour des stages à la médiathèque de l'Uzèche les 31 juillet et 7 août. Et bien sûr, sur rendez-vous pour des accompagnements individuels au cabinet Claude Duras à l'Uzèche. Et n'oubliez pas, gardez l'esprit ouvert et faites preuve de discernement. Je vous souhaite du soleil dans votre tête et des sourires dans votre cœur. À très vite.